Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média au menu. Tous les médias, toutes les formes de culture, vous retrouverez par ordre d'apparition Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences télé d'hier soir, Bruno Donnet pour ses télescopages et Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. Notre infomédia avec BFM TV qui débarque en Normandie et qui lance demain sa 10e chaîne locale après Paris, Lyon, Lille ou l'Alsace, qui était un décrochage régional, est en train de devenir un réseau au point d'inquiéter l'opérateur historique régional France 3. On en parle avec le maître d'œuvre de ces chaînes, Hervé Bérou, directeur général d'Altice Média, la maison mère de BFM. Nos invités ensuite, Alix Grousset, youtubeuse, influenceuse, aux plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Elle est désormais animatrice sur la plateforme lumni.fr. Dans son émission L'Entre-deux, elle reçoit des personnages qui l'inspirent. Aujourd'hui, il est question du rapport que nous entretenons avec notre corps. Enfin, la comédienne Catherine Froh sur scène pour Lorsque l'enfant paraît, avec et mise en scène par Michel Faux. C'est une pièce d'André Roussin, écrite en 1950. Et il est question de l'interdiction de l'avortement et de la fermeture des maisons closes. Qu'est-ce que ces thèmes ont d'actuel? Pourquoi ont-ils choisi cette pièce? C'est justement l'interrogation qu'on va soumettre à Catherine Froh. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Louise, au sommaire de votre journal des médias.
Trois nouveaux magazines bientôt dans les kiosques, dont une version française d'un célèbre, très célèbre magazine de mode américain. Ça fait 20 ans que les éditeurs tentent de le lancer en France, mais sans succès. Et puis dans l'actualité aussi, une motion de défiance votée à France Bleu contre la direction de l'information. La PDG de France Média Monde veut continuer 50+. Une petite précision aussi sur le Late Show d'Alain Chabat. Et puis, bonne nouvelle si vous aimez, comme moi, écouter Catherine Ney raconter tous les secrets des présidents.
Mais d'abord, les audiences télé qu'ont regardé les Français hier soir, le podium.
Ils ont regardé TF1, la suite de la série Événements Les Combattantes. Budget de 20 millions d'euros, je vous le rappelle. 4 550 000 téléspectateurs hier soir, 22,3% de part d'audience. Ça reste un bon score, mais c'est en baisse. Hein. Les combattantes perdent 600 000 téléspectateurs en une semaine. Deuxième, c'est L'Amour est dans le pré, toujours un bon niveau. Hein. 3 590 000 téléspectateurs, 11,9% de part d'audience. Mais là aussi, c'est un bon niveau, mais ça baisse. Et puis, même tendance pour France 2, tout le monde baisse cette semaine. Avec la suite de la saison 4 des Rivières Pourpres, 2 510 000 téléspectateurs. Spectateurs hier soir, 11,9% de part d'audience, c'est 500 000 téléspectateurs de moins par rapport à la semaine dernière.
Europe 1, le journal des médias.
Journal des médias qui débute avec cette info. Prisma Média va lancer 3 nouveaux magazines.
Oui, c'est le groupe de presse qui comprend déjà de nombreux magazines. Hein, Gala, Capital, Géo, Voici, Femme Actuelle, etc. Sa présidente Claire Léost vient d'en annoncer 3 supplémentaires dans une interview au Figaro. Alors un sur la jeunesse, un autre sur le développement personnel et un troisième qui n'est pas tout à fait une création mais plutôt une adaptation, la version française de Harper's Bazaar. C'est un magazine américain, une institution dans le monde de la mode fondée en 1867, c'est-à-dire il y a 155 ans.
Incroyable.
Il est déjà édité dans plus d'une trentaine de pays. Alors pourquoi arrive-t-il seulement en mars 2023 en France? Eh bien, j'ai fait un petit tour dans les archives de la presse et j'ai pu constater que ce n'est pas en fait la première tentative de lancement. Il y en a déjà eu plusieurs. En 2001, le groupe Marie-Claire était déjà sur le projet, mais l'éditeur américain Hearst exigeait qu'il y ait 700 pages de publicité dans 10 numéros. Impossible pour le marché français, avait estimé la direction de Marie-Claire.
Ça fait 70 pages par numéro, c'est intenable pour nous.
C'est énorme. Rideau donc pour le projet. 12 ans plus tard, en 2013, rebelote. Le groupe Marie-Claire réessaye, le lancement est annoncé en grande pompe dans un communiqué de presse, une rédaction est formée, travaille activement sur le magazine. Mais là aussi, le projet tombe à l'eau. La presse révèle que la rédactrice en chef et son équipe ont été licenciées. Libération explique qu'un numéro zéro a pourtant bien été présenté à l'éditeur américain, mais qu'il n'a pas plu. Trop niche, le DG de Marie-Claire de l'époque, Arnaud Contades, se justifie. Les Américains ont considéré que ce qui leur a été présenté était trop éloigné de la marque Harper's Bazaar. Faux, rétorque la rédactrice en chef de l'époque, Alexandra Senès. Selon elle, c'était un magazine de mode ouvert avec de la culture qui offrait d'autres points de vue. On ne faisait pas un magazine de niche, mais on ne faisait pas non plus un magazine de shopping. L'aventure s'arrête donc là pour le magazine, pour le groupe Marie-Claire. Et c'est donc maintenant Prisma Média qui rachète la licence et qui prévoit même un tirage à 100 000 exemplaires. Sa présidente Claire Léost indique dans le Figaro y voir, je cite, « l'opportunité de devenir une référence dans le monde de l'ultra-luxe en France ». et d'attirer de nouveaux annonceurs.
Et est-ce que Claire Léost indique le nombre de pages de pub qu'il y aura par numéro ?
Non, pas encore.
Elle le dit
On
pas.
On va lui demander.
Une motion de défiance votée à France Bleu.
Adoptée à 85% contre la direction de l'information. Un peu moins de la moitié des salariés ont participé, hein, 46%. C'est dans la moyenne des élections professionnelles et de celles pour la carte de presse d'après les deux syndicats qui organisaient le vote. Le directeur de la radio, Jean-Manuel Casalta, a lui une interprétation différente. Il a écrit dans un mail interne que 2/3 des journalistes du réseau n'ont pas adhéré à la motion de défiance. Alors pourquoi était-elle organisée ? Dans un communiqué, les syndicats avaient dénoncé la brutalité du management de cette direction de l'info et le manque de moyens, dont la chute continue n'est plus compatible avec le maintien des rendez-vous d'antenne. Fin de citation. Ils réclament aussi plus de souplesse et de liberté éditoriale locale. Réponse de la direction de la radio, eh bien elle apporte sa pleine et entière confiance au directeur de l'information et à ses équipes. Elle écrit qu'ils vont poursuivre et accentuer l'effort vigoureux, déterminé et attentif qu'ils ont engagé depuis de nombreux mois pour répondre, c'est une citation, répondre aux tensions qui peuvent se faire jour entre nos attentes éditoriales légitimes et nos contraintes d'organisation et de moyens.
Marie-Christine Saragosse brigue un troisième mandat à la tête de France Média Monde.
France Média Monde qui regroupe France 24, RFI et Monte Carlo d'Oualia, c'est une radio en langue arabe. Sa PDG depuis 10 ans, Marie-Christine Saragosse, souhaite le rester pour 5 ans de plus et elle avance ses arguments dans un mail interne révélé par l'AFP, notamment celui de la stabilité pour le groupe dans une période d'incertitude due à la suppression de la redevance et aux discussions qui resurgissent sur la réforme des structures de l'audiovisuel public. Voilà ce qu'elle écrit. Elle fait allusion à une possible fusion. Qui lui fera face ? Eh bien, la liste des candidates et candidats sera rendue publique dans un mois tout pile. Les auditions auront lieu dans la foulée mi-novembre et la nomination officielle par l'ARCOM sera au plus tard le 23 janvier.
Quelques précisions sur le Late Show annoncé, présenté par Alain Chabat.
Ce sera une salve d'une dizaine d'émissions diffusées pendant la Coupe du Monde. C'est ce qu'avance C'est Médiatique sur France 5. Alain Chabat a annoncé le lancement de ce nouveau rendez-vous il y a quelques jours, dans une vidéo parodiant le Prince Charles, en précisant seulement l'horaire, 23h. Eh bien, ce créneau serait justement possible dans la configuration du Mondial, puisque les matchs seront diffusés tôt, à 20h, ce qui laisse le temps du match, le temps du débrief du MAG avec Denis Brognard et puis place au Late Show ensuite.
Et on termine ce journal avec le retour de Catherine Ney et de son podcast Inséparable au pluriel.
Il n'y avait plus d'épisode depuis mars, mais ça y est, la journaliste grande voix d'Europe 1 est de retour dès demain avec une nouvelle histoire de duo présidentiel. Alors après Jacques et Bernadette Chirac, après De Gaulle et Pompidou, voilà celle de Nicolas et Cécilia Sarkozy.
Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire d'un couple que l'on croyait indissoluble, que certains appelaient même les Kennedy français. Ils ne se quittaient pas, Cécilia était toujours là, vous l'avez compris, c'est Nicolas Sarkozy et Cécilia. Un scénario multiple rebondissement digne d'une série américaine.
Et Catherine Ney raconte en deux épisodes la petite histoire qui raconte la grande, tel le principe de ce podcast. À retrouver donc sur toutes les plateformes de podcast demain, le podcast Europe 1 Studio.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver aussi sur Europe1.fr en plus du podcast de Catherine Ney. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, BFM TV qui lance une nouvelle chaîne, BFM Normandie, sa 10e antenne locale. Nous en parlons avec Hervé Bérou, le directeur général délégué d'Altis Média, la maison mère qui chapeaute BFM et RMC. A tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Et une de plus. Demain, BFM TV va lancer BFM Normandie, sa 10e antenne locale du réseau BFM Région, après BFM Paris-Île-de-France, c'était en 2016. BFM Lyon, puis Lille, Marseille-Provence, Toulon, Nice-Côte d'Azur, c'était en 2021, et BFM Alsace cette année, et j'en oublie, on les citera ensuite. Ce qui était un décrochage régional est en train de devenir une sorte de réseau, au point d'inquiéter l'opérateur historique régional, à savoir France 3, qui n'en finit pas de se restructurer. Ensuite, quelle étape pour BFM ? Au passage, la maison mère BFM TV fait toujours la course en tête des chaînes d'info continue, même si CNews se rapproche petit à petit. Est-ce que c'est un sujet ? Ce sont parmi les questions que nous allons poser à notre invité. Bonjour Hervé Bérou.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le directeur général délégué d'Altis Média. Je reprends mon souffle une fois que j'ai dit votre titre. En charge de l'information et du sport, je peux respirer. Altis Média, c'est la maison mère de BFM dirigée par Patrick Drahi. Donc, la naissance de cette nouvelle chaîne demain, BFM Normandie, la 10e antenne locale du réseau BFM troisième région. Vous pouvez les détailler, vous les avez en tête ?
Oui, bien sûr. Bah, vous avez dit l'essentiel il y a un instant. Vous avez oublié BFM d'ici, qui est notre chaîne dans les Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence.
À côté de Gap.
Et vous avez oublié, de mémoire, BFM Grand Littoral, qui est la chaîne de la Côte d'Opale, Calais, Boulogne, Dunkerque. Voilà, et je crois sinon que vous aviez donné toutes les autres.
Alors, avant que vous racontiez l'esprit de ce réseau, d'abord, qu'est-ce qu'on va voir sur BFM Normandie ?
Bah, la même chose que sur les autres chaînes locales, c'est-à-dire uniquement de l'info locale, de proximité, servicielle, info, proximité, service. Voilà, c'est l'info modèle BFM, l'info en continu, mais au plus près, en bas de chez vous, au plus près des téléspectateurs.
Quels décrochages nationaux y a-t-il dans vos chaînes locales ? Strictement aucun.
Aucun. Chaque chaîne locale, c'est 100% de programme purement local. Ça, c'est très important parce que on me pose souvent cette question.
Bah, c'est normal.
Oui, c'est normal.
France 3 fait des décrochages.
Voilà, mais nous, on n'en fait pas. On a évidemment notre chaîne nationale, internationale d'info, qui est BFM TV, donc on n'a pas besoin de dupliquer ce modèle-là. En revanche, il nous a semblé, donc il y a quelques années, donc sous l'impulsion de Patrick Drahi, Alain Veil à l'époque, et maintenant poursuivi par Arthur Dreyfus, le PDG d'Altice Média, eh bien qu'il fallait inventer, parallèlement à cette chaîne d'info nationale et internationale, une chaîne, un modèle d'info en continu de proximité. Et puis, comme ça marche très bien, bah on continue.
Le casting, les journalistes, je dis casting, le terme est un petit peu pas très, très, très élégant, mais les journalistes, ils viennent de Paris ou ils viennent de Normandie ou un mélange des deux ?
Ils viennent de partout. Philippe Antoine, qui est le directeur des rédactions des BFM Régions, fait toujours en sorte qu'il y ait évidemment dans l'équipe des gens du cru.
Oui, voilà, régional de l'étape.
Voilà, les régionaux de l'étape. C'est-à-dire qu'en général, par exemple, le chef de bureau, en l'occurrence, il s'appelle Gilbert Guérand en Normandie, bah, c'est quelqu'un qui vient d'Ouest-France, qui est un local. C'est évidemment important de connaître parfaitement cette région, c'est-à-dire soit d'y travailler, soit d'en être originaire et d'y revenir.
Connaître la région et aussi les personnalités de la région, parce que c'est important quand on veut recevoir les députés, les maires à son micro.
Bien sûr, et pas seulement les politiques, d'ailleurs hein, tous les acteurs du monde économique, du monde culturel, du monde sportif. Ce sont des chaînes qui ont un champ d'action qui est extrêmement large et qui touche tous les secteurs de la société.
Alors j'ai regardé les émissions qu'il y a à voir, vous les avez en tête ou pas ?
Oui, bien sûr.
Alors allez-y, ça commence par Bonjour la Normandie.
Oui, voilà. Bah, c'est de l'info locale, hein, de l'info en continu. Le matin, on a une émission matinale, hein, comme ici à Europe 1, qui est incarnée. Ensuite, on se retrouve pour une deuxième tranche en direct à la mi-journée et puis pour une troisième en fin d'après-midi vers 17h. 17h d'ailleurs, c'est l'heure du lancement demain de la chaîne.
Alors, le gars, j'espère que vous avez sécurisé son contrat, parce que je vais raconter, et j'ai étudié ça évidemment, Bonjour la Normandie, c'est présenté par Jasmine Bousquet, elle démarre tous les jours à 6h30. Ensuite, il y a le 12h30-17h. Déjà, c'est une belle tranche, c'est un marathon, présenté par Bastien Bockel. Et le soir, il y a Bonsoir la Normandie, encore présenté par Bastien Bockel à partir de 17h.
Voilà, bah, il fait la tranche de la mi-journée, la tranche de la fin d'après-midi.
Ah non, il fait les 8h à l'antenne.
Bah non, mais il est à la 12h30-13h. Ensuite, on a des rediffusions actualisées. Et puis ensuite, il reprend l'antenne à 17h. Il n'est pas à l'antenne en permanence. Non,
parce qu'il y avait écrit 12h30-17h et ensuite Bonsoir la Normandie.
C'est 12h30-13h et puis ensuite 17h18h.
Alors, il y a une petite erreur dans votre dossier de presse, mais ça m'a amusé. Et puis, il y a aussi des émissions de week-end. Il y a Normandie Week-end, le jeudi, une fois par mois. Il y a Normandie Politique, présentée par Bastien Bockel.
Absolument.
C'est pour ça que je disais, il faut
c'est le jeudi en sortie de son émission du soir. Ce qu'il faut ajouter, et de plus en plus, pas seulement sur BFM Normandie, mais sur nos chaînes locales, c'est qu'à côté de ces tranches d'infos classiques en local, on est de plus en plus dans nos chaînes locales des chaînes de l'événement. Il y a les émissions politiques dont vous avez parlé, mais de plus en plus en direct d'événements sportifs, d'événements culturels. On a fait le carnaval de Nice sur BFM Nice, on a fait la braderie de Lille récemment
à Lille,
mais on a aussi fait les matchs amicaux de l'Olympique de Marseille avant le début de la saison sur BFM Marseille, un match de Coupe d'Europe de l'OGC Nice sur BFM Nice. Sur BFM Normandie, par exemple, on diffusera au mois de octobre, le 23 octobre, voilà, la finale du tournoi féminin de Rouen, de tennis. Voilà. Les événements en direct sont de plus en plus nombreux sur nos chaînes locales, ce qui rehausse évidemment ce qu'elles peuvent apporter.
Toute petite question non prévue, comme vous êtes également en charge des sports, comment vous avez les droits de ces matchs ? Les matchs amicaux de l'OM, c'est facile à avoir. Je pensais que le club était tellement, tellement suivi que même ceux-ci avaient une grosse bataille, parce que ce n'est pas dans vos budgets.
Bah, vous savez que dans notre groupe, on a évidemment BFM, mais on a aussi RMC Sport. Et donc évidemment, le fait de, à travers RMC Sport, son agence, sa chaînes payantes RMC Sport 1 et RMC Sport 2, bah, ça nous permet aussi de nouer des contacts avec les clubs qui
sont,
qui le font encore plus
facilement. Est-ce que ça vaut le coup de casser sa tirelire pour une audience somme toute limitée, pour un match amical de l'OM sur un bassin de population limité?
C'est une convergence d'intérêts. En général, on ne casse pas notre tirelire, justement. Évidemment, ce sont des droits, mais tout ça est proportionnel. On est sur une chaîne locale et sur des événements locaux, mais tout ça fait l'affaire de chacun.
C'est ça, le club vous fait aussi un petit cadeau, le club de l'OM.
Tout le monde
Nice
y trouve son compte, évidemment.
D'accord, ils savent que c'est pas avec ça qu'ils vont...
C'est important pour l'OM de pouvoir proposer, par exemple, si on prend cet exemple, de pouvoir proposer aux passionnés de l'OM, à l'avant-saison, 5 matchs amicaux du club qui n'étaient pas diffusés sur une autre chaîne les années précédentes.
Est-ce que toutes vos chaînes régionales sont construites sur le même modèle? Est-ce que c'est la même grille partout? Avec évidemment des gens différents.
Quasiment. On a évidemment des adaptations, c'est-à-dire qu'on ne fait pas exactement la même grille en Ile-de-France, où vivent 13 millions d'habitants, et pour BFM DC, qui est une chaîne plus rurale, dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Donc on s'adapte aux horaires de travail des gens.
Et je pense à quelque chose, est-ce qu'on a la même grille à Strasbourg et en Normandie, alors qu'il y a une heure de décalage avec le soleil?
On a quasiment la même grille, là, mais en Normandie, par exemple, on privilégie... Là aussi, on n'est pas toujours en zone rurale, mais enfin, on est moins en zone urbaine, évidemment, qu'à Lyon ou à Paris. On privilégie les moments pour les tranches en direct où les gens sont chez eux, notamment l'heure du déjeuner. Voilà, c'est spécifique aux zones plus rurales. Et les fins de journée par rapport à l'Île-de-France, où évidemment, on va avoir une matinale très servicielle pour dire s'il y a des problèmes de transport, comment ça roule ce matin.
Qu'est-ce qui est mutualisé? Est-ce que la météo, par exemple, est mutualisée? C'est un bulletin météo qui part de Paris et qui est le même pour tout le monde? Ou l'infotrafic, autrefois, je me souviens que l'infotrafic.
Absolument. La météo, c'est un exemple voilà, de mutualisation et de bonne synergie dans le groupe. Ce sont les journalistes météo de BFM TV qui enregistrent, parallèlement à leurs interventions en plateau sur BFM TV, les bulletins météo de l'Alsace, de la Normandie, de la Provence, voilà, et c'est donc la même personne qui incarne sur toutes nos chaînes, mais avec une météo, là encore, purement locale.
Demain, il va y avoir une grande émission de lancement, vous l'avez dit, à 17h. Qu'est-ce qu'on va voir? Comme on disait dans les années 50, est-ce que vous allez faire venir des vedettes de Paris?
Alors, une vedette qui est, en chaque fois, quand on lance une chaîne locale, on a un parrain qui est originaire. Donc, demain, le parrain de BFM Normandie, c'est Emmanuel Petit, le champion du monde 98, qui est un Normand.
De foot.
Et qui fait partie, évidemment, de l'équipe RMC Sport. Et
donc, ah oui, il est consultant.
Voilà,
il est consultant.
Et qui a donc gentiment accepté de venir demain à Rouen baptiser cette chaîne. L'émission de demain, elle sera entre 17h et 19h sur la chaîne BFM Normandie. Ce sera une vitrine. C'est le moment où on va présenter tout ce qu'on va offrir aux Normands. 5 départements, plus de 3 millions de téléspectateurs potentiels quand même. Donc on va leur montrer tout ce qu'on va leur proposer avec des politiques, mais des chefs d'entreprise, des restaurateurs, des sportifs. Toute la galaxie qui va défiler ensuite sur BFM Normandie.
On va dresser un bilan des 9 premières chaînes que vous avez lancées et je sais qu'il n'est pas mauvais et c'est un euphémisme. Hervé Bérou avec nous, directeur général d'Altis Média, la maison mère de BFM TV et RMC. BFM Normandie, ça démarre demain. Nous, on revient dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Hervé Bérou, le directeur général d'Altis Média, c'est la maison mère de BFM TV et RMC. Il est avec nous en ce studio à Paris. Il sera demain en Normandie puisqu'il ouvre la 10e antenne régionale de BFM, donc BFM Normandie. Je vous posais une question, comment sont les audiences globales? Je pose la question benoîtement, je sais que c'est une question facile parce qu'elles sont quasi mirifiques. Quand je les ai vues, je n'y croyais pas. Vous étiez venu en mars 2021, parler de... Vous lanciez justement BFM DC, la chaîne qui est sur le 04, le 05.
Absolument.
Aldo de Provence, Hautes-Alpes. Les audiences étaient à 2,7 millions téléspectateurs. Vous en êtes à combien maintenant?
5 millions. Alors, on approche les 5 millions.
Ça a presque doublé.
Voilà, ça a quasiment doublé. Et encore, sommes-nous uniquement sur 8 chaînes, puisque BFM Alsace n'a été lancé que fin juin. Donc évidemment, n'est pas comptabilisé dans ses audiences de la saison dernière. Et BFM Normandie, et pour cause, ne sera lancé que demain. Donc on est en effet très heureux. Si je prends par exemple les chaînes du Sud, Marseille, Toulon, Nice, sur un an, qui est l'année donc de leur création, leur audience a été multipliée quasiment par 5.
Ah oui, mais en même temps, vous savez, c'est très facile, puisque quand on démarre,
c'est très facile que ça.
Non, je veux dire par là que c'est très facile de progresser quand on est en bas. Les chiffres du bio, quand personne n'en prenait, ils arrivaient à doubler en 6 mois. Doubler, il faut toute une vie. C'est...
Ben là, c'était un an, quand même, pour multiplier par 5. On est assez content. On n'a pas l'habitude dans le groupe de se reposer sur nos lauriers, donc évidemment, on continue. Mais c'est vrai que, comme vous le soulignez, la progression, elle est impressionnante et elle nous donne envie d'améliorer encore ces chaînes, de rehausser encore leur qualité.
Et les chiffres sont très bons aussi. Après, on arrête avec votre satisfaction sur le digital.
Oui, absolument, puisqu'on a eu au mois d'août, par exemple, un record avec 144 millions de visites sur nos sites et applis, voilà, juste pour le mois d'août dernier, pendant les vacances, avec une progression là aussi qui est extrêmement impressionnante.
Mais ce sont pas
évidemment, parce que c'est important de le dire, de faire ce lien, c'est-à-dire que nos chaînes, on les appelle des chaînes parce que voilà, évidemment, on les met sur la TNT, chez les opérateurs, mais ce sont d'abord des plateformes, voilà, des plateformes digitales qu'on peut regarder en direct sur son portable ou sur sa tablette et où on peut suivre évidemment toute l'actualité tout au long de la journée sur ces outils digitaux.
Et oui, où est-ce qu'on peut les voir alors ces chaînes? Il y a plein de moyens de les voir.
Ben, il y a plein de moyens de les voir. Évidemment, la TNT, hein, à chaque fois, la TNT locale, le digital, comme vous le disiez, et puis les opérateurs, Bouygues, Free et SFR.
Et Canal+ aussi, avec la plateforme.
Voilà, mais voilà.
Mais voilà.
Mais pas Orange.
Mais pas Orange. Vous voyez très bien la question qui
mais
va
moi,
arriver.
Je voyais venir, donc je me devance.
Les chaînes d'Altice, donc elles sont distribuées entre autres par Canal+, via ces deux plateformes, ces plusieurs plateformes, MyCanal, CanalSat. Est-ce que vous confirmez que l'accord que vous avez signé avec eux comprenait une augmentation de 50% du montant? Je veux dire le sens de ma question. Il y a en ce moment un conflit entre Canal+ et TF1. Canal+ refuse de diffuser les chaînes du groupe TF1 et TF1 reproche à Canal d'avoir augmenté son tarif de 50%, ce que nie Canal+, sans donner toutefois le bon pourcentage. J'étais obligé de faire une question longue pour avoir votre réponse précise.
Ma réponse sera courte. J'ai rien à dire sur ce sujet. Nous, on va pas... Bah non, évidemment, on n'a pas. Ce sont les accords passés entre les opérateurs et les chaînes. Ce sont des accords qui doivent rester confidentiels. Et voilà, aujourd'hui, nous, on a en effet un petit problème qui est celui de la diffusion, de la non-diffusion aujourd'hui des chaînes locales par Orange. Voilà. Mais pour le reste, j'ai pas de commentaire à faire sur les autres accords.
Avec Orange, vous avez juste un problème de diffusion des chaînes locales.
Absolument.
Parce qu'on peut voir BFM TV,
bien
la
sûr,
maison
bien sûr,
mère
bien sûr.
Sur Orange.
Absolument, absolument.
Et le désaccord porte sur quoi? La somme?
On n'a pas trouvé d'accord, voilà. Mais voilà, ça viendra peut-être.
Comme pudiquement, ces choses-là sont dites. comment se porte BFM TV?
Très bien. Très bien, on va...
Toutes les chaînes d'infos ont progressé, ce fut une grosse année.
Et BFM TV, qui est le leader, a progressé beaucoup, a une saison record sous la houlette de Marc-Olivier Fogiel la saison dernière. Et puis là, on s'achemine encore vers un mois de septembre record, qui a été notamment porté par la couverture des cérémonies d'obsèques et puis des cérémonies tout court en honneur de la reine Elisabeth II. Mais c'est un mois de septembre qui va s'achever encore sur des audiences exceptionnelles pour BFM TV qui fonctionnent très très bien.
Je n'avais pas les chiffres secrets que vous avez, donc je ne pouvais pas donner les chiffres de septembre, mais sur l'année, BFM TV est à 2,9%.
Pour vous dire, voilà, 2,9%, c'était le chiffre de septembre la saison dernière pour BFM TV. Et là, pour l'instant, on est à 3,6%. Donc c'est une progression exceptionnelle.
Je reviens à mes chiffres. Plus 0,2 points pour BFM TV. CNews à 1,7 a progressé de 0,6. LCI, plus 0,2 points à 1,2. Enfin, France Info, c'est ça que j'en parle, sous les 1%, à 0,7%. Elle gagne seulement un dixième de point. France Info, qui vient de nommer un nouveau directeur général, Éric Berg. Ce qui est important, c'est que Éric Berg vient justement du réseau régional France Bleu. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Écoutez, pas grand-chose. Je lui souhaite la bienvenue à France Info.
Que votre modèle est inspirant.
Je lui souhaite de... notre modèle, je ne sais pas s'il est inspirant. En tout cas, il est, je pense, complet. Il est satisfaisant, en effet, avec cette juxtaposition d'une très puissante chaîne nationale et internationale. Et puis donc de ces modèles locaux dont on a parlé, sans oublier aussi BFM Business, notre chaîne économique et financière. Cette déclinaison large qui touche aussi beaucoup le digital, avec des podcasts qui se multiplient. Je pense en effet que c'est un modèle qui fonctionne. Après, est-ce qu'il est inspirant? Tant mieux s'il l'est.
BFM TV était confronté à un problème, plutôt BFM Région, pardonnez-moi, confronté à un problème, le seuil anti-concentration qui était fixé à 12 millions d'habitants hors Île-de-France. Ça a bougé, ce chiffre a bougé.
Oui, la loi a bougé l'an dernier, en 2021. Et donc, c'est maintenant, le seuil est fixé, enfin, le plafond est fixé à 19 millions de téléspectateurs hors Île-de-France.
D'accord.
Ce qui nous permet de continuer à lancer des chaînes comme BFM Normandie demain.
Quelle est votre marge de progression?
De quel point de vue?
De tout point de vue, chiffré. Et quelles sont les prochaines régions, les prochaines villes que vous espérez investir?
Écoutez, pour l'instant, on va déjà lancer BFM Normandie. Comme je le disais, ça fait 10 chaînes en 6 ans et ça fait même 9 chaînes en 3 ans. Donc on a beaucoup travaillé et, voilà, et on va donc encore lancer BFM Normandie demain. Ensuite, on verra au gré des opportunités, parce qu'évidemment, il faut pouvoir, si on investit une région, eh bien, il faut récupérer les fréquences d'une chaîne. Voilà. Mm-hmm. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, il faut aussi qu'on se pose pour regarder le bilan de tout ça. Voilà, au bout de 10 chaînes, on a un réseau qui n'est pas complet encore sur le territoire, puisqu'on touche à peu près un Français sur deux aujourd'hui. Mais on occupe quand même maintenant, si vous regardez la carte de toutes les chaînes qu'on a citées, en effet, une part importante du territoire.
Et vous avez, enfin votre groupe a peut-être un petit trésor de guerre, conséquence inattendue du rejet de la fusion TF1-M6. Patrick Drahi, le patron d'Altice, ne va pas acheter les chaînes TFX et Sister, les canaux 11 et 22 de la TNT. TF1 et M6 ne sont plus obligés de les vendre. J'imagine qu'il a mobilisé une somme ou un montage financier. Qu'allez-vous faire de cette somme? Est-ce qu'il y a d'autres achats en vue à votre connaissance?
Écoutez, juste dire deux choses. La première, c'est qu'on est déçu, évidemment, que cette fusion TF1-M6 ne se fasse pas et que donc les chaînes 11 et 22, aujourd'hui TFX et Sister, que nous devions acheter dans le cadre de cette fusion, eh bien, nous ne puissions pas les récupérer et les faire croître et progresser. On y avait travaillé, bon, bah, c'est comme ça, mais on est déçu en effet. Et pour le reste, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Ces choses-là datent de 10 jours. Mais voilà, vous pouvez compter simplement sur le groupe Altis pour continuer à se développer, à trouver des moyens de se développer, de croître, comme on l'a fait depuis le début de Next Radio TV avec Alain Veil et comme on continue à le faire aujourd'hui avec Patrick Drahi et Arthur Dreyfus. Voilà, on va continuer. Vous dire aujourd'hui comment, c'est trop tôt.
Merci beaucoup Hervé Béroux, directeur général d'Altis Média, la maison mère de BFM TV et de RMC. Et on souhaite bon vent à BFM Normandie. Ça démarre demain. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Philippe.
L'émission continue évidemment. Dans un instant, Alix Grousset nous rejoint. C'est la nouvelle animatrice de l'émission L'Entre-deux, émission de société destinée aux lycéens sur la plateforme lumni.fr. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est une youtubeuse à la base qui s'est fait connaître sur Instagram. Et puis on va retrouver également Bruno Donnet pour ses fameux télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Il y a une nouvelle émission sur lumni.fr, elle est présentée par une youtubeuse, c'est comme ça qu'on dit ou pas, elle s'appelle Alix Grousset et elle est avec nous dans ce studio, on va l'entendre dans quelques instants, mais d'abord c'est l'heure très attendue des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours Bruno, vous observez ici les comportements médiatiques et hier soir vous avez été très surpris de constater que le porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu, entretenait une curieuse tradition de son parti.
Oui, une tradition cocasse, Philippe, mais très bien mise en évidence pendant la dernière campagne pour les législatives, qui veut que, invité sur un plateau de télé, un membre du Rassemblement National ne prépare jamais son interview et raconte absolument n'importe quoi. Vous vous souvenez peut-être de Mélanie Fortier, cette jeune candidate RN à la députation, à laquelle une journaliste de France 3 Côte d'Or avait posé cette petite question-là.
Quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement National? Quelle est votre position?
Et qui s'était illustrée par une réponse édifiante.
Mais en fait, j'ai pas tellement compris la question.
Suivi par cet immense moment de solitude.
Que Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris.
Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, Sébastien Chenu, qui est donc député des Bouches-du-Rhône et porte-parole du Rassemblement National, a parfaitement entretenu cette tradition. Invité de C'est à vous sur France 5, notre homme a été interrogé sur la politique énergétique de la France. Il a commencé par vouloir chiffrer le fameux bouclier fiscal.
Vous voyez, là, on est sur 45 milliards avec le bouclier fiscal que payent les Français. Parce que ces 45 milliards d'euros, ils sortent de la poche des Français.
Manque de bol, il a dit une grosse bêtise. Parce que sur les 45 milliards, 29 milliards sont en fait payés non pas par les Français, mais bien par les vendeurs d'énergie eux-mêmes. Bon. Et puis, il est tombé magistralement dans l'énorme chausse-trappe que lui avait tendue Patrick Cohen. Car avec l'assurance de celui qui sait parfaitement bien où il veut entraîner son interlocuteur, le journaliste de France 5 lui a posé cette question.
Sur le plan énergétique et avant cet hiver qu'on nous annonce difficile et peut-être périlleux pour notre approvisionnement en électricité. Qui, à vos yeux, est responsable de la situation actuelle ?
Une question dont il attendait qu'elle conduise Sébastien Chenu à dire le plus grand mal de ceux qui, en France, ont abandonné le développement de l'énergie nucléaire. Eh bien, devinez quoi ? Bingo ! Sébastien Chenu est allé la tête la première, exactement là où Patrick Cohen l'attendait.
Par exemple, François Hollande a une lourde responsabilité dans la fermeture de Fessenheim, dans le fait d'avoir une vision extrêmement brouillée, pour ne pas dire mieux, de l'outil nucléaire, de la politique nucléaire que mène la France. Parce qu'à un moment, il fallait séduire les Verts, alors on a arrêté de miser sur le nucléaire. Résultat, on a des EPR qui ne fonctionnent pas.
Voilà, plouf, en plein dans le mille. Alors pourquoi Patrick Cohen souhaitait-il l'entraîner sur ce terrain-là ? Eh bien tout simplement parce que depuis que Marine Le Pen a déclaré ceci la semaine dernière à la radio...
Quand donc on abandonne l'investissement dans le nucléaire, eh bien on découvre au moment de la crise notre dépendance, notre perte de souveraineté, perte de maîtrise.
Les réseaux sociaux ont ressorti une archive épatante. Une interview de 2011 dans laquelle la patronne du Rassemblement National disait exactement le contraire.
Le nucléaire est une énergie extrêmement dangereuse, nous le disons depuis très longtemps, puisqu'un des premiers colloques du Front National en 1979 était justement sur les dangers du nucléaire.
Eh oui, la patronne du Rassemblement National dénonçait les dangers du nucléaire et souhaitait donc que l'on en sorte. Patrick Cohen a donc montré cet extrait-là à son invité, mais mise en difficulté, Sébastien Chenu a répondu par un énorme mensonge.
Que dit Marine Le Pen ? Que le nucléaire, c'est propre, que le nucléaire, c'est efficace.
Bah voyons, suivi d'un autre qui aurait pu faire passer Pinocchio pour un petit joueur.
Nous y avons toujours été favorables, quand bien même nous considérons qu'une énergie, elle peut porter des dangers.
Alors je rappelle, Philippe, que tout Twitter se gausse de cette archive de Marine Le Pen et de son changement de pied depuis maintenant une semaine, qu'il était évident que cet aveu allait la soumettre à son premier invité issu du Rassemblement National et que Sébastien Chenu aurait donc pu travailler un peu et préparer une réponse un poil plus convaincante. Je rappelle également que celui qui prend les téléspectateurs de France 5 pour des canards sauvages et qui ne sait pas précisément qui finance le bouclier fiscal est également vice-président de l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup Bruno Donnet, effectivement c'est édifiant. Je me tourne vers vous Alix Grousset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes influenceuse, blogueuse, plus de 100 000 abonnés sur Instagram et maintenant animatrice télé. C'est vous qui incarnez depuis le 13 septembre le magazine L'Entre-deux. Le nouvel épisode de cette émission est mis en ligne aujourd'hui. D'abord, présentez-nous le concept de ce programme.
L'Entre-deux, c'est un magazine sociétal donc, qui est sur Lumni. Lumni, c'est la plateforme digitale de France Télé qui est à destination des étudiants, des lycéens, des collégiens. Moi, vraiment, l'émission que j'anime, c'est vraiment pour un public lycéen. Et on parle d'enjeux sociétaux qui intéressent les gens de cet âge-là. On a fait un premier épisode sur le pouvoir d'achat. Mmh. Celui qui est sorti aujourd'hui, c'est sur le rapport au corps. Mmh. Le prochain, c'est sur la peine de mort. On essaie d'aborder un peu voilà, des thématiques qui peuvent intéresser les gens. Et en se positionnant de façon tout à fait neutre et puis aussi dans une démarche didactique, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire passer les gens pour des débiles, c'est-à-dire qu'on peut se poser toutes les questions, je pose toutes les questions et j'ai aucune honte à ça et j'ai l'impression que les gens arrivent à se reconnaître aussi dans le programme, c'est hyper important pour moi.
Lumni, vous pouvez présenter cette chaîne et comment vous y êtes arrivée ?
Alors,
parce que ça aussi, ça nous a surpris dans l'équipe. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voulait recevoir. Parce qu'on n'attendait pas ça. On n'attendait pas une youtubeuse dans Lumni. D'un côté, il y a l'éducation nationale. Ce sont deux paradigmes différents. Je ne suis pas là pour les opposer, mais pour dire que c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. Et c'est justement ça qu'on a trouvé intéressant.
Et bien en fait, je ne suis pas tant à l'impact que ça. Parce qu'avant, j'étais déjà dans le terrier. Mmh. Avant d'être sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à travailler en médias. J'ai commencé sur des web radios. Puis j'ai travaillé en prod aussi. Donc j'écrivais, j'étais rédac chef. Donc j'avais déjà cette patte un petit peu média. Et puis j'étais assez jeune à ce moment-là. J'avais 18-19 ans. Je savais que je voulais faire ça. Mmh. Je savais quand je rentrais sur un plateau, j'avais des petits papillons dans le ventre. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, si tu veux faire tes propres prods, montrer ce que tu sais faire de l'interview, développe tes formats sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est un moyen de monter assez rapidement. Je me suis rendu compte qu'en prod j'allais être peut-être un peu enfermée au standard ou à la rédaction, alors j'avais vraiment envie de faire de l'antenne. C'est pour ça que j'ai monté mes réseaux sociaux et que la chaîne Lumni et France Télé sont venus me chercher parce que sur mes réseaux sociaux je fais pas mal de formats interview. J'ai un format aussi qui s'appelle À l'ancienne dans lequel je rencontre des personnes âgées, donc c'est vraiment des échanges assez profonds et je pense que c'était ce qu'ils avaient envie aussi de rapporter sur la plateforme, d'avoir un incarnant jeune qui puisse parler au public puisqu'on s'adresse à des jeunes, comme on l'a dit, lycéens, mmh. début d'études supérieures. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Donc, je pense que ces personnes-là peuvent peut-être voilà, je peux les représenter, en tout cas ils peuvent s'identifier à moi. Et c'est en ce sens que France Télé est venue me chercher. En tout cas, c'est comme ça qu'ils me l'ont présenté.
Comment vous choisissez les thèmes et les invités de l'émission ?
En fait, on fait des conférences de rédaction, comme pour n'importe quelle émission. On soumet tous des thèmes. On est une équipe de 3-4. Ça se passe très très bien. C'est une très bonne ambiance. On est tous assez jeunes avec la prod avec laquelle je travaille. Et puis, on travaille conjointement.
Mmh. Au générique, il n'y a que des filles.
C'est vrai qu'on est beaucoup de filles. Ah bah, mais le producteur...
Il n'y a que des filles au générique.
Ah, le producteur, Alex Zermont,
est un garçon.
C'est un garçon.
J'avais deviné, si on dit le producteur.
Exactement.
Donc c'est un peu comme Cosette, ça a été fondé par un garçon et il n'y a que des femmes ensuite qui écrivent dedans.
Et bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes, mais en revanche, tout ce qui est équipe technique, il y a des hommes aussi, il y a des hommes et des femmes. Mmh. C'est assez mixte, mais c'est vrai qu'à la rédaction, on est pas mal de femmes. Et pour moi, c'est très important aussi, ça représente un peu l'ADN de France Télé. Donc je trouve que c'est très chouette de pouvoir travailler dans ce sens.
Le sujet qui passe aujourd'hui, le rapport au corps, oui. Qu'est-ce que vous entendez par là, le rapport au corps ?
Alors, on l'a problématisé autour de la dysmorphophobie, qui est le fait de ne pas se percevoir comme on est réellement. Avec les réseaux sociaux, c'est très important aujourd'hui parce que sur les réseaux sociaux, on peut avoir beaucoup de complexes. Les réseaux véhiculent des complexes. Il y a de plus en plus de personnes, hommes et femmes, qui prennent la parole à ce sujet, qui montrent des corps plus normaux, peut-être un peu moins sexualisés aussi, comme on peut beaucoup le voir, ou avec des corps pleins de chirurgie. Donc c'est très bien, on montre tous les types de corps aujourd'hui et c'est ce qu'on voulait montrer avec cette émission, qu'il existe tout type de corps. Et aussi, c'était très important pour moi de démocratiser la prise en charge psychologique à partir du moment où on sent qu'il y a un trouble qui arrive.
Disons, ça va coûter cher à la Sécu parce que vous dites qu'un Français sur deux aurait des complexes vis-à-vis de son public. Vous en parlez avec une psychologue clinicienne. Oui. Elle s'appelle Kaline Majalani. On va l'entendre. Elle donne une définition de ce terme, la dysmorphophobie.
Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est que la dysmorphophobie ? Parce que c'est quand même un mot à rallonge, et je pense
ça
que tout le monde l'a
pas. Barbare, ouais. Mais ça ne l'est pas, au fait, ça vient donc du grec dysmorphia, donc qui signifie laideur ou difformité, et phobie de phobos, qui signifie peur ou effroi. Donc en fait, c'est un trouble qui existe depuis le début du 19e siècle, il a été défini à cette époque-là, et c'était la peur d'avoir un défaut majeur dans son corps. Les patients souffraient de cette peur-là avec des obsessions hyper présentes qui les poussaient dans des états psychologiques atroces.
Et alors j'ai appris des choses, je suis tombé de ma chaise parce que j'ai découvert, j'imaginais que le complexe était de ne pas ressembler à tel ou tel. C'est surtout, vous parlez de quelqu'un qui a des complexes sur ses cuisses, j'imagine que c'est plutôt des filles, c'est plutôt les filles. Et j'imaginais qu'elles essayaient de ressembler n'importe quoi à Madonna ou à Kim Kardashian, mais ça va beaucoup plus loin.
Oui.
J'ai fait une immense découverte. C'est les gens qui n'arrivent pas à ressembler à leurs propres photos,
oui,
avec les filtres.
Et ça me... Ah oui, ça c'est un vrai problème. Et j'en ai eu conscience sur Instagram parce que j'avais vu une vidéo d'un... Je crois que c'était une chirurgienne qui expliquait ça, que des personnes venaient, mais hommes et femmes, dans son cabinet en montrant la photo de quelqu'un, ou alors en venant avec la photo d'un filtre, une photo d'elle avec un filtre sur les réseaux, en disant « je veux ce nez ».
Non mais attendez, excusez-moi, mais est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu bas du front ? Tout le monde sait qu'on ne peut pas ressembler à une photo filtrée puisque par définition, c'est un filtre pour changer l'image.
J'irai pas jusqu'à dire ça. Je pense que ça, c'est vraiment un complexe. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément percevoir quand on n'a pas ce complexe-là. Mais peut-être que ces personnes se préfèrent avec tel nez et elles se disent que ce serait pour elles le nez parfait, au même titre que les gens qui vont chez les chirurgiens.
Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ce que vous avez dit dans l'émission. Dans l'émission, vous dites ne pas ressembler à sa photo filtrée. Ce n'est pas du tout la même phrase.
Si. Ce que je veux dire, c'est que quand on met un filtre, ça peut nous modifier, par exemple, la forme du nez.
Et c'est je viens de comprendre.
C'est la même chose que si vous veniez.
On ne comprenait pas ça dans l'émission, c'est pas grave, on ne comprenait absolument pas ça. On pensait que les gens, comme ils étaient filtrés, ils paraissaient plus jeunes et ils voulaient ressembler à leurs photos filtrées. Je viens de comprendre.
Mais en tout cas, c'est bien parce que vous voyez, même si c'est un programme qui s'adresse à l'origine à des jeunes, à des étudiants, et ben même vous, ça vous a interrogé. Et c'est ça qui est fort, je trouve.
Aujourd'hui, la dysmorphophobie. Oui. Hier, vous m'avez dit que c'était le pouvoir d'achat.
Non, c'était aujourd'hui la
dysmorphophobie. Prochaine, pouvoir d'achat.
Le premier, c'était le pouvoir d'achat. Le prochain, c'est la peine de mort.
C'est ce que je disais. Et la peine de mort, qu'est-ce que vous voulez en dire ? Est-ce que vous voulez qu'on revienne dessus ? En quoi c'est un débat ?
C'était pas mettre un débat, c'était justement, et c'était ça qui était très intéressant. J'ai reçu une représentante d'Amnesty International qui m'expliquait qu'à l'heure actuelle, quand elle va dans des lycées faire des conférences, il y a encore des gens qui sont pour la peine de mort. Et donc elle explique à ces jeunes pourquoi on ne pourrait pas aujourd'hui rétablir la peine de mort et pourquoi justement ce n'est pas un débat. Elle explique aussi dans le monde ce qui se passe. J'ai appris par exemple qu'en Chine, il y avait la peine de mort avec sursis, chose que j'ignorais complètement. Et je trouve que c'est très important aussi de rappeler tout ça, parce que des grandes puissances aujourd'hui, comme par exemple les États-Unis, pratiquent encore la peine de mort. Et c'est important que les jeunes d'aujourd'hui soient sensibilisés à ça et comprennent que la peine de mort, ce n'est pas que pour des crimes d'homicide, ça peut aussi être pour des crimes de vol. Et ça, c'est super important de le dire.
Et on l'a vu en Iran, parfois, pour un voile mal disposé. Est-ce que l'UMNI, c'est un service public, oui. C'est presque du militantisme. Les gens qui font ça, ils font pas ça comme si c'était un suppôt du capitalisme. Est-ce que vous êtes rémunéré ou est-ce qu'au contraire, cet affichage sur l'UMNI vous ramène du monde pour vos réseaux sociaux dans une opération gagnant-gagnant ?
Non, je suis rémunérée à hauteur de... comme si c'était une pige, en fait, pour une émission. Et j'ai pas de rémunération pour les communications sur mes réseaux, mais je le fais vraiment... j'ai pas envie, si vous voulez, d'être sur l'UMNI en tant qu'influenceuse. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux parce que ça me permet, ce que je vous disais, de faire mes prods sur ma chaîne YouTube, etc. Mais mon but, c'est pas du tout de vivre des réseaux sociaux. Moi, je veux repartir sur du média traditionnel. La radio, la télé, c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est ce que j'aime. Et je sais que c'est ce que je vais faire plus tard. Je suis jeune, j'essaye plein de choses, mais je vois pas l'UMNI comme en tant qu'influenceuse. En vrai, pas du tout.
Jérémy Hébert, notre réal et ses équipes, viennent me dire dans l'oreillette, on l'embauche. Vous continuez vos
interviews.
N'hésitez
pas, je suis disponible le matin, je me lève tôt.
Vous continuez sur la chaîne YouTube, le clic d'Alix ?
Oui, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Alix Grousset, comme mon nom et mon prénom, et j'ai un format qui s'appelle le clic d'Alix, que j'autoproduis depuis maintenant 3 ans, qui est un format d'interview de créateurs de contenu, pour aller un petit peu au-delà de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. C'est un format que je veux volontairement long, du 40-45 minutes, pour découvrir la personne au-delà de son pseudo ou au-delà de ce qu'elle est. Comprendre un petit peu aussi l'envers du décor. Je fais bien la nuance entre créateur de contenu et influenceur. Tous les créateurs de contenu sont influenceurs, mais tous les influenceurs ne sont pas créateurs de contenu.
Et tout ça sans note. Quel pro à 25 ans. Merci beaucoup, Alix Grousset. Je rappelle, ce nouvel épisode de l'Entre-deux consacré à notre rapport au corps est en ligne aujourd'hui sur lemi.fr.
Exactement.
Merci d'avoir été avec nous. Encore heureux que c'est exactement.
Merci mille fois.
Culture Média continue sur Europe 1 après les infos de 10h. Notre invitée, c'est la comédienne Catherine Fraud pour une pièce de théâtre. Oui, qu'elle joue aux côtés de Michel Faux lorsque l'enfant paraît. On y parle d'avortement, on y parle de la fermeture des maisons closes. Pièce écrite en 1950 par André Roussin. Pourquoi la sortent-ils maintenant, elle va nous dire. Et puis dans les indispensables, Héloïse Goua va nous parler d'une série glaçante et Olivier Benkemou nous présentera le film Palme d'Or du dernier Festival de Cannes. Je n'oublie pas Jean-Luc Lemoine, comment l'oublier, pour sa session de rattrapage. À tout de suite.